Maintenant, commence le cycle des conférences de notre colloque. La première conférencière est ma collègue Regine Hunziker-Rodewald de l'Université de Strasbourg en Alsace, qui s'occupe de la découverte de la stèle de Méchard par Friedrich Klein et sa destruction. Je te suis très reconnaissant, Régine, d'être venue par ici, parce qu'au moment, elle travaille à l'Université de Helsinki, en Finlande, pour un stage quelques mois de recherche, et elle a interrompu ses recherches pour venir pour donner cette conférence ici. Merci bien.
Merci beaucoup pour ces gentils mots. Et c'est un plaisir de venir ici, et merci beaucoup pour l'invitation aux organisateurs. Je vais parler de la découverte et aussi de la destruction, l'histoire de la découverte jusqu'à la destruction en quelques étapes. Vous le verrez une après l'autre. C'est alors la découverte, mais aussi la destruction. Et puis, je l'appelais une tragédie dramatique en trois actes. Les personnages majeurs, c'est Klein, le pasteur. On va entendre un peu plus encore. Et Petermann, le consul. Mais il y a encore des personnages particuliers pour chaque acte. Acte 1, il y a Zatam, fils de Fendi Al-Fais, Cheikh de Beni Sachor, puis Cheikh de Beni Hamideh. On entendra cette histoire, puis Ben-Am de Assalt et Saba Kavar de Jérusalem, qui vont jouer dans le acte 1, ça veut dire la découverte. Acte 2, ça c'est les négociations. On a là le pacha de Nablus, le pacha de Jérusalem, le gros vizir et puis le vali de Damas. Vous voyez, c'est les autorités turques ici dans ce deuxième acte. Et puis dans le troisième acte, on ne connaît pas grand-chose, c'est les certains fils des Beni Hamideh qui ont agi là pour la destruction. C'est un peu décalé là, c'est parce que ce n'est pas mon ordi. Alors, on a un prologue, acte 1, acte 2, acte 3 et un épilogue pour le plan ici aujourd'hui. Si on regarde en ligne et on cherche sous certains mots-clés comme Moabit ou Moabite Stone ou Moabite Inscription, on trouve trois photos tout de suite. C'est un site qui est ici promu par SBL, Society of Biblical Literature, c'est pas rien, et on voit juste trois photos. Ça veut dire à gauche Clermont-Ganneau, au centre Monsieur Petermann et à droite Monsieur Charles Warren. Et si on va un peu plus vers le haut de ce même site, on entend là Discoverers of the Mesha Stele. Alors, ce sont ces trois qui ont découvert la stèle de Méchard. C'est l'information qu'on gagne si on va juste chercher un peu. C'est un des exemples. Puis, si on regarde un peu dans les newspapers, les British newspapers, on trouve, entre autres, ici assez tôt, le 11 février 1870. Avant, il n'y avait rien dans les quotidiens. Et on lit ici Discovery in Moab, et après on entend que c'est the Honorary Secretary of the Palestine Exploration Fund qui écrit. On va voir qui c'est, et il écrit c'est Captain Warren qui a découvert. The active and able agent of the Palestine Exploration Fund at Jerusalem has made a discovery which promises to be of great importance. Si on lit juste ça, on a l'idée, c'est Monsieur Warren qui a trouver cette stèle. Celui qui a écrit ce petit article de début février de 1870, c'est Sir George Grove. He is co-founder of the Palestine Exploration Fund et aussi honorary secretary. On a lu dans la première phrase. C'est alors de lui. Un peu plus tard, nous avons vu, c'était début février, le 11, en mars 23, il se corrige. I was certainly wrong in my letter of the 8th of February. J'étais faux dans ma lettre du 8 de février parce qu'il a envoyé la lettre un peu plus tôt quand elle était publiée. In speaking of Captain Warren as the discoverer of the stone, it appears that the real discoverer was Mr. Klein. Alors là, on trouve quand même ce nom. Il se corrige lui-même, signé par Monsieur Grove. La même chose, maintenant on se réfère, hein, ce sont les fameux fake news ou fausses nouvelles. Si on a là une nouvelle qui est déjà dans le net ou à l'époque dans les newspapers, après c'est M. Deutsch, hein, j'ai mis là les cercles parce qu'on ne peut pas tout lire, hein, et c'est, il dit, George Grove, the secretary of the Palestine Exploration Fund, writing to the Times, claims for Lieutenant Warren the credit of discovering... C'était encore avant la correction de M. Grove. Et puis, il dit ici, Mr. Deutsch certifies to the value of the discovery. Alors, c'est fiable, définitivement. Hein? C'est signé par E. Deutsch. Qui est E. Deutsch? Il écrit là, I would only beg to urge on your committee the expediency of leaving no means untried to get possession of as much of this unique Moabite relic as may survive. So, on veut récupérer le plus possible de ce monument, parce qu'à ce moment-là, c'était déjà détruit. Monsieur Deutsch, Emmanuel Oscar Menachem Deutsch, était un bibliothécaire au British Museum, et il était aussi un special correspondent for The Times. Il a beaucoup écrit plus tard, hein, mais c'est cette période de Clermont-Ganneau que je ne mentionne pas. On entend beaucoup de Grove et aussi de Deutsch, mais là, on est tout au début de cette histoire. Enfin, en avril, même année, 1870, on entend le nom de nouveau, hein, de Mr. Klein, a Prussian. Maintenant, on a aussi un peu plus d'informations dans le Shields Daily News, un autre quotidien britannique. Mr. Klein's a Prussian clergyman who has been in the service of the Church Missionary Society at Jerusalem has furnished the Palestine Exploration Fund with an account of the Moabite stone. Alors là, on entend maintenant, alors c'est un monsieur Klein, et on entend encore plus ce qu'il a dit. Mais on ne va pas ici dans tous les détails, je vous montre juste les impressions dans les quotidiens de l'Angleterre. Acte 1, la découverte. On veut voir maintenant, c'est qui ce Mr. Klein? On verra alors ce qu'on trouve sur lui. J'ai cherché un peu, j'habite à Strasbourg, alors c'est facile, mais c'est aussi sur le net. On a là un registre de naissance 1828. Hein, c'était déjà connu qu'il est né en 1828. Alors il faut maintenant chercher dans les documents en ligne Monsieur Kleins, si il est vraiment né à Strasbourg. Et bien sûr, évidemment, il est né à Strasbourg. On le voit ici à gauche, en bas. Je vais un peu plus proche avec le numéro 316 de l'année 1828. On voit là la déclaration qu'il était né le 27 février à Strasbourg. Même on a l'adresse. Est-ce que j'ai un pointer? Oui, j'en ai. Je fais comment que ça marche? Peut-être, oui, ça semble. Non, voilà. On a ici la date, hein, puis l'année là, et on a après les parents ici, dans cette partie, et on a même l'adresse 102-02 à la Grand Rue à Strasbourg. L'accouchement a eu lieu, et puis on a là les témoins. Alors ça c'est bien évidemment clair, parce que parfois si on cherche un peu dans les documents, c'est pas tout à fait clair quand il était né. Rapidement, un peu de son bio, mais juste rapidement, ce qui peut être important pour nous aujourd'hui. Il est né alors à Strasbourg 28, il est admis à la mission de Bâle pour apprendre missionnaire. Il avait 16 ans, alors encore très jeune, juste après le lycée. Puis à 49, il était admis au Church Mission Christian Church Mission in Islington in London. Il est resté là 2 ans. Après, il était envoyé en Palestine. Il était pasteur à Nazareth. Il s'est marié une première fois avec Mary Ward. Elle est décédée rapidement. Puis elle s'est mariée de nouveau avec Louisa Merkel, et il était pasteur à Jérusalem 56. à 72. Aussi, Louisa Merkel est décédée. Vous voyez, là, les femmes, ce n'était pas facile. Et puis, il s'est rapidement remarié parce qu'il y avait des enfants. Hein, et c'était, évidemment, c'était nécessaire. Hein. Puis, on a encore une autre date. À partir de 1880, il était membre du Deutsche Palästina Verein. Et puis, en 82, il était envoyé au Caire. Et 1893, il est allé en retraite et il est décédé 1903 à Wellington, en Angleterre. Une impression, comment il a écrit? C'est une écriture assez difficile à lire. C'est un peu l'ancien allemand. Et on a là une lettre, 1844, c'était avant, il est arrivé à Bâle, c'était son CV. Il décrit ici tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il avait 16 ans et il écrit alors tout au début, il commence par ça, « Die wichtigste und höchste Begebenheit », ce qui est le plus important dans ma vie, c'est sans doute là, ouf, maintenant c'est difficile, c'est un peu théologique là, « Die selige Gewissheit, die ich erlangt habe, dass Jesus Christus der Erlöser ist », que le Christ est mon sauveur personnel. Hein. Ça c'est, il commence sa lettre comme ça. On voit déjà un homme très très pieux. Ça, c'est sa signature. On verra comme ça change, sa signature. J'ai un peu fait le plaisir de un peu comparer les signatures de ses lettres, hein, parce que j'avais accès à ces archives pour un peu lire ses lettres. Il était alors, de 1844 jusqu'à 1849, il était à Bâle, dans la maison, c'est la deuxième maison, Mission House 2, an der Leonhardstraße. Et c'était encore avant 1860, parce qu'après, ils sont aujourd'hui ailleurs, parce que c'était trop bruyant là, parce que juste derrière, il y avait les carrosses qui sont arrivés et on a déchargé les biens et c'était trop, trop difficile parce que les étudiants, ils ont plutôt regardé ce qui se passait dans la rue qu'ils ont fait attention, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Il y a là aussi c'est coupé du registre de la mission de Bâle et on voit là une longue information. Vous avez là de nouveau le nom de August Klein, puis sa date de naissance, il est le numéro 307 dans la mission de Bâle. Il est né à Strasbourg et puis nous avons ici encore quand il était envoyé, 49, non, quand il était en Angleterre, 49 jusqu'à 51. Puis là, il était envoyé à Jérusalem et à Nazareth. Ça commence par 51 jusqu'à 77 et puis en Égypte après encore une deuxième partie de 82 jusqu'à 93. Puis il est marié trois fois. Nous avons ici les décès de ses épouses et après là, c'est son décès quand il est décédé en 1903 et après encore les étapes parce qu'il était envoyé par le Church Mission Society, mais il n'était pas tout le temps à Jérusalem et à Nazareth, il est tout le temps revenu. Et c'est aussi important pour savoir comment il s'est comporté quand il avait trouvé cette pierre fameuse. Là, c'est pas une photo, c'est un dessin. C'était fait par la mission de Bâle au moment où il est parti pour Islington. C'était alors en 1949. On n'avait pas encore la photographie, pas dans cette institution, et c'est pourquoi on a fait un dessin. On le voit ici avec, il avait 16 ans à ce moment-là. C'est la seule photographie-dessin qui existe. J'ai trouvé une deuxième, mais c'est juste pour ce colloque-là. Puis, de nouveau, sa signature, et c'est maintenant dans l'année 49, quand il était envoyé à Islington. Et nous voyons déjà, ça a un peu changé. Il a plus de caractère dans sa signature. Hein. Ça continue. Ici, on a le College of the Church Missionary Society à Islington, proche de Londres, le bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui. Là, il était deux ans, de 49 jusqu'à 51, et de là, il était envoyé en Palestine, à Jérusalem précisément. une autre sorte de signature, 51. Alors, c'est le moment avant qu'il ait envoyé. Il a là une petite jolie queue à la fin de sa signature, mais c'est juste pour le plaisir, ça. Ça n'a rien à voir avec la stèle de Mécha. Il y a là, en ligne, on trouve les archives de cette Church Missionary Society. Et nous avons là l'entrée 426, où c'est indiqué très court ce qu'il a fait. Et là, on voit déjà, c'est un intérêt religieux, hein, bien sûr. C'est une société de mission, hein, dans les pays comme l'Égypte, mais aussi la Palestine. On voit ici rapidement ce que vous avez déjà entendu. Et très, très rapidement et très court, sans date, « Discoverer of the Moabite Stone ». C'est tout. Ça n'intéresse pas, hein, dans cette société. On le mentionne, mais c'est tout. Alors, c'est très rapidement, on le mentionne, mais... pas trop. Là, c'est la deuxième photo. C'est quand même magnifique. À droite, nous avons Klein. Il est là à ce moment-là. On est, la date est ici, 97. Alors, il a quel âge? C'est 70. Et il est là à côté. C'est indiqué ici. Et là, on a son épouse. C'est la troisième. C'est Lina Sturmfels. Il s'est marié avec elle en 73. Tout ça juste pour ce qu'on sait. Puis, The Egypt Mission a un letterbook dans les archives de la Church Mission Society. Et là, on entend aussi le moment où il est décédé. Ce qui nous a, c'est une lettre là, signée par le secrétaire de cette société. Et on lit juste ce qui est peut-être important ici pour nous. To a very wide circle, his name will always be memorable in connection with his discovery in 1868 of the famous Moabite Stone. Quand même, c'est indiqué là, mais vous voyez, si on cherche aujourd'hui sur l'Internet, parfois on ne trouve même pas le nom. Le moment où il a découvert, on a ici des photos de ce Matson Archives in the Library of Congress of the region of Ajloun, parce qu'il a fait en 1868, il a fait un voyage, il était en Jérusalem, mais il a fait à cette époque-là, à cette période-là, plusieurs voyages vers l'Est. Il était curieux, mais aussi ses confrères ont fait la même chose et il est entre autres, il était là. Dans la région de Ajloun, mais de Belka aussi. J'ai là mis un cercle autour de Didiban. Vous le voyez aussi à l'est de la mer Morte. Juste, ça n'intéresse pas le reste qui est là sur cette carte, mais juste pour savoir où on est à peu près. Et il écrit alors là une lettre. Et cette lettre est datée, on le verra plus tard, de 1870. Et il raconte ici... comment ça s'est passé. Et c'est important, et c'est la seule lettre qu'on a de lui, de August Klein. Et il écrit, c'était alors le 19e du mois d'août, en 1868, que j'ai fait un voyage dans la région du Jebel Ajloun et dans la Belka, et je suis arrivé à Diban. Il n'était pas seul, il était accompagné par Zatam, on l'a déjà entendu là où j'ai donné les personnages. C'était le fils de ce Fendi Al-Faïs, Cheikh de Beni Sacha. Il était avec lui et il l'a protégé, mais aussi il a fait les contacts. Hein. Et il l'a accompagné pour être accueilli chez les Beni Hamidé dans la région de Diban. Et là, quand on a pris du café et tout ça, on s'est installé, on a beaucoup bavardé, mais à un moment donné, c'est ce Satam qui lui dit, écoute, il y a là une pierre, on aimerait bien te montrer ça, personne des Européens a jamais vu cette pierre. À ce moment-là, on est dans l'année 68, il était, alors le soleil a commencé à se coucher, il était un peu sous stress parce qu'il voulait... Évidemment, il voulait voir cette pierre qui lui était là proposée, d'aller la voir. Et ils sont enfin allés la voir. Et parce qu'il n'avait rien avec lui, il n'avait pas de papier pour faire un estampage ou un dessin. Il n'avait rien, ou il y avait quelque chose pour faire un dessin au moins. Et il a fait alors a copy. I, however, had time enough to examine the stone, je suis là où il y a le cercle rouge, and its inscription at leisure, and to copy a few words from several lines. C'est ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui de Kleins. Puis, il avait encore le temps parce que what time was left be before sunset, alors c'était vraiment très proche, et il a fait un sketch, alors il a fait un dessin de toute la pierre comme il l'a vu à ce moment-là, et il nous décrit aussi que the stone is, as appears from the accompanying sketch, rounded on both sides, not only at the upper end. Vous vous souvenez, vous avez déjà vu la pierre et c'est un peu différent là. Je vous montre tout de suite le dessin. For as in the upper part, so also in the lower, in exactly the same way the lines became smaller by degrees. Et puis il nous donne aussi les mesures de cette pierre. According to my correct measurements, on the spot, il était le seul qui a vu la pierre, le seul européen. Il dit 1m13, hauteur 70, large et 35, épais. Et according to my calculation, had 34 lines, c'est ce qui est vérifié aussi plus tard. Puis il dit, il était en a most perfect state of preservation, alors il était complet, il n'était pas cassé, rien, il était juste dans un très bon état. Et il dit, un peu plus tard, j'ai coupé là juste les parties, on my return to Jerusalem, I showed my sketch and parts of the inscription to Dr. Petermann. Là maintenant, on a ce monsieur Petermann à Berlin. Il était le consul allemand prusse à Jérusalem à ce moment-là. C'est intéressant déjà de voir que Klein s'adresse à Petermann, à un Allemand. On est dans les années là, il est de Strasbourg. Hein, et en Strasbourg, on est toujours entre les deux cultures. Mais il s'adresse à Petermann, il était évidemment ami. Alors, je ne sais pas plus de ça. Et on envoie alors « a young clever Arab » at Salt, was entrusted with the business of transacting the matter with the Bedouins of Diban. Maintenant, Petermann s'est mis en position pour aller récupérer cette stèle et il a envoyé un premier arabe et puis the services of another native were subsequently engaged, mais tout n'a pas bien marché. Puis c'est vers la fin de cette lettre que Kleins, qui écrit ici, on a la date ici, le mars 23 de 1870, il y avait d'autres parties qui se sont involvées dans cette affaire-là. Il fait des allusions là, mais il ne faut pas le préciser là. Il était assez poli et assez aussi modeste de ne pas dire celui-là a fait ça, celui a fait ça. C'est d'autres chercheurs qui après ont fait un peu la guerre autour de cette pierre. On voit tout en bas que cette lettre était adressée à M. Grove, on l'a déjà vu. Et puis est apparu dans le Pall Mall Gazette en April 19th. Et puis aussi une deuxième fois Illustrated London News. And the sketch is in the Palestine Exploration Fund. Ça, c'est le sketch que Klein a fait. C'est intéressant, c'est ce qui est d'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui dans le Palestine Exploration Fund à Londres. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il l'a vu comme ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit la stèle différemment. Ok, je ne dis pas plus. Ici, c'est signé par lui-même, là, et il dit qu'il l'a fait le 19 août en 68. Et là, c'est quelques lettres qu'il a fait. Il n'était pas sémitisant, pas du tout. Hein. Alors, il a fait un peu, disons, oui, n'importe quoi, c'est un peu trop dur, mais il a dessiné ce qu'il a vu, disons comme ça. Et de nouveau, les mesures et que c'était arrondi des deux côtés. Nous avons alors ici, il faut comprendre à quel moment il écrit cette lettre. C'est assez tard, parce qu'il a découvert la pierre quand même 68 en août, et ça fait le 23 mars qu'il enfin envoie cette lettre des années 70 à Grove. Mais c'était le moment avant qu'il ait parti pour l'Angleterre. Et c'était son travail comme missionnaire, parce qu'il a dû retourner à la maison mère de cette société. Et c'est pourquoi, avant de retourner, le 9 avril de la même année, il a encore écrit cette lettre et envoyé. Comme ça, c'était tout ce qu'il avait à dire. Après, il n'a plus rien écrit C'était tout là dans cette seule lettre. Le 24 avril, une année plus tard, il est de nouveau parti pour Jérusalem. Alors il était de nouveau dans la région, mais déjà une année plus tard, c'est sa deuxième femme qui est décédée. On ne sait pas si elle était déjà malade, là j'ai pas des informations. Et il s'est marié une année plus tard. Alors il avait définitivement autre chose à faire que s'occuper de cette pierre. Hein. C'est pourquoi ça s'arrête là un peu avec Klein. Il a quand même, en 70, il a une autre signature. Hein. Il est maintenant quelqu'un, hein. Mais il est aussi plus âgé, bien sûr. Hein. Pour les négociations, si j'ai encore le temps, là, je vais vous montrer encore ce qui apparaît. Walter Morrison fait un résumé de tout ce qui s'est passé. Il est aussi un major founder and treasurer of the PEF. Et il écrit dans ce livre « Recovery of Jerusalem », c'était des informations de Wilson et de Warren aussi, et il est l'éditeur, on voit son nom ici en bas, hein, voilà, et il voulait que M. Deutsch le fasse. On a déjà vu l'image de ce M. Deutsch du British Museum, mais Deutsch est tombé malade, et c'est pourquoi c'est lui qui a fait maintenant ce résumé de tout ce qui s'est passé. On est assez tard, 71, et il nous dit... Il y a des choses qu'on connaît déjà, il ne faut pas les répéter, mais ce qu'il dit aussi que c'est très dommage que Klein n'a jamais pris, quand il était là et il a vu la pierre, il n'a pas pris un estampage. Et il dit, he informed instead the idea of getting the stone to the Museum of Berlin and communicated in secret his discovery to Petermann. Alors c'était tout secret. On n'a pas informé personne à Jérusalem parce que c'était Petermann qui voulait la chose pour Berlin, la chose, la pierre, bien sûr. Et puis, c'est un peu plus tard, it was at this point, alors c'est un peu plus tard, mais dans la même année, que Captain Barron first heard of it, nothing having been told him either by Mr. Klein or Dr. Petermann. Alors, vraiment, c'était... fermé, hein, enfermé. Et puis Captain Warren, however, là c'est un peu un éloge à Warren, hearing from Mr. Klein at the same time that the Prussians were moving in the matter. Les Prussiens étaient déjà en route, hein, ils ont déjà essayé de récupérer la pierre. Il a pensé qu'il ne faut maintenant pas faire autre chose et entrer en all accounts to abstain from any action which might rouse the cupidity and jealousy of the Arabs. Alors, il avait un peu peur que les Arabes, s'il y a trop d'Européens qui veulent maintenant prendre cette pierre-là, qu'on a après un problème, qu'ils ne la donnent pas. On va ici de l'année 67, une image de Warren, qui était à l'époque très actif pour le Palestine Exploration Fund. Il est à côté de Barclay, qui est au milieu, un peu tout droit là. Les deux étaient amis et c'est important parce que Barclay a entendu plus tôt de la pierre que Warren. Nor was it till the spring of 69 that he felt, this is now Warren, at liberty to mention the subject. On voit ici qu'on a découvert la pierre en août 68 et alors en printemps 69, rien ne s'est passé jusqu'ici. Et cette pierre était toujours à Diban. Et à ce moment-là, il essaye maintenant de prendre contact when on hearing an account of it from the Reverend Barclay, who told him and Mr. Clermont-Ganneau what was being done, he wrote to England to the matter. By the next mail, however, he wrote again stating that the Prussian consul had obtained a firman. This means, ça veut dire un contrat des Turcs pour avoir la pierre. Et à ce moment-là, un peu plus tard, en juillet, Barron a quitté Jérusalem et il était de nouveau aussi plus sur place. C'est important, ces détails. Et il y avait à ce moment-là aussi des choses qu'on va apprendre plus tard. After this, the Arabs lit a fire. Ici, là, il y a vers la fin de, c'était en octobre-novembre 69, on avait trop de business autour de cette pierre. Et à ce moment-là, the Arabs lit a fire under the stone and throwing cold water upon it, broke it into fragments. Little could be done. So. Ok, je passe à Petermann. Ça, c'est maintenant le consul prusse qui était la personne de contact de Klein. À ce moment-là, il était orientaliste, professeur même, à Berlin, et il était conçu dans les années 68 et 9. Là, c'est maintenant en allemand. J'essaye de un peu aussi traduire. Il raconte là, c'est maintenant Petermann lui-même qui aussi fait son compte-rendu de tout ce qui s'est passé. Et il dit que un jour, en fin août de l'année 68, c'est Klein qui vient, qui retourne d'un voyage autour de la mer Morte. Et il m'a raconté, mais il y avait trois amis qui étaient là présents à ce moment-là. Alors, ce n'était pas juste les deux hommes. Et il m'a raconté qu'il a vu là une pierre. Et le 29 du même mois, alors assez rapidement, c'est maintenant Petermann qui écrit à Berlin, au musée de Berlin, parce que là, il y avait Lepsius, qui était le directeur du musée impérial de Berlin, et il lui a écrit qu'il y a là quelque chose, il a besoin de l'argent. Et Lepsius répond tout de suite, le 15 septembre, c'était à l'époque tout de suite, hein, et il dit « Oui, cet argent est accordé ». C'est Lepsius ici, juste une image qu'on trouve en ligne, qui était à ce moment-là la personne qui décide pour donner de l'argent à Petermann. Et puis, Petermann nous écrit ici et continue « Pour éviter la concurrence, j'ai... interdit à Klein et aussi à ses trois hommes rien dire aux autres dans la région, pas aux British, pas aux Français, alors on veut rester la chose chez les Allemands. Mais il reconnaît aussi qu'un des trois n'était pas fiable et un des trois a informé Barclay. Barclay, c'est du British Palestine Exploration Fund et probablement Barclay, on a vu les deux sur la photo, et a donné une information à Warren. Alors, c'était déjà out. Là, on voit maintenant Barclay à côté de Warren. Hein. Ils étaient amis à l'époque hein, et alors là, entre amis, ça se passe différemment, on sait bien. Hein. Alors, juste encore les dates. On est alors 68 août, c'était trouvé le 19. 29 août, c'est déjà Petermann qui réagit et qui écrit à Berlin. Le 15 septembre 68, il reçoit déjà la réponse qu'il aura l'argent de Lepsius. On a l'idée, ah, ça se passe très bien, mais pas du tout. Alors, ça continue après, parce que maintenant, on a alors cette permission de l'argent, et c'est maintenant Petermann avec l'aide de Klein, il écrit à Fendi Feis, ça c'est le cheikh des Hamidés, et il dit on veut maintenant discuter sur l'achat de cette pierre. Et il a envoyé, avec cette lettre, il a envoyé ce Bahnam de Assalt qui a dû maintenant négocier. Mais rien ne se passe et ce cheikh, il a dit après, il doit discuter avec le cheikh des Hamidés qui sont sur place. Ça ne va pas marcher comme ça et il faut attendre. Mais il est parti, il était à Damas. Et puis, vous voyez, des mois et des semaines et des mois. Et Klein et Petermann, vous pouvez vous imaginer, ils étaient un peu « auf Kohlen », on dit en allemand. Ils étaient un peu sur la braise. Je ne sais pas si ça va en français. En tout cas, ils avaient peur que quelque chose se passe et que d'autres s'impliquent maintenant. Hein. Septembre 68, on est maintenant. Et... il y a le cheikh qui dit on ne peut rien faire parce que il faut faire autrement. Il envoie un autre Sabat Savar, c'est le deuxième arabe de Jérusalem, qui va maintenant aller à Diban et il reçoit de l'argent déjà dans la poche. Alors 53 Napoléon, c'est déjà beaucoup. 3 pour lui quand il fait tout bien et quand il revient avec la pierre, il reçoit encore 50. C'était quand même une nouvelle démarche. On est mars 69 parce que entre-temps, les Bédouins voulaient pas les 120, ils voulaient maintenant 1000. Et là, Petermann dit, mais alors, ça ne va pas, je n'ai pas l'argent, il faut faire autrement, je dois maintenant informer les autorités turques. Et c'est pourquoi c'est maintenant le pacha de Jérusalem qui est informé. Mais évidemment, et c'est ce qu'il ne savait pas, que le pacha de Jérusalem n'est pas responsable pour la Transjordanie. Il faut un autre pacha. Et là, vous voyez, ça prend du temps. Hein. On est mars 69, hein, c'était trouvé en août 68. On est même en juin 69. Et Malheureusement, le pacha était maintenant à Beyrouth à un moment. Alors, Peterman a envoyé la lettre à Beyrouth, mais avant que la lettre est arrivée, le pacha est revenu et la lettre était à Beyrouth. C'est tout écrit ici, c'est incroyable. Et puis après, il reçoit quand même le 23 juin une réponse. Et là, c'est clair que ce n'est pas lui le pacha de Jérusalem, c'est le pacha de Nablus qui est le responsable. Et lui, il ne peut pas agir sans que le vali de Damas donne son mot. Ok, on est juin 69. Hein? Et puis, alors, il écrit à ce vali de Damas. Maintenant que quelque chose se passe et il donne un ordre à celui qui est responsable à Nablus pour la Transjordanie, et en même temps il a contacté das deutsche Generalkonsulat, au Bundeskonsulat, alors le consulat général à Beyrouth, pour avoir deux hein, déjà qui poussent, hein, qui font un peu du bruit et de la pression. Et puis, malheureusement, Peterman avait terminé son mandat. Encore ça. Alors, là, le consul de la Confédération de l'Allemagne du Nord à Jérusalem, c'était Peterman, de 68 à 69, parfois aussi de 67 déjà, mais jusqu'à 69, c'est clair, en juin à peu près, et Georg von Alten, il était le prochain, il était son successeur de 69 à 73. Alors, un nouveau qui doit maintenant travailler la chose, il essaye tout, et ils font encore un effort et il entend maintenant Van Alten, de Klein et de Sabak Tsavar que les Bédouins pensent maintenant que parce que les Européens ils sont trop actifs, il y a certainement là un démon dans cette pierre. Hein. Et ils ne voulaient même pas qu'on fasse un estampage hein, parce que si on prend un estampage, le pouvoir, la puissance démoniaque de cette pierre va être enlevée. Alors, on ne peut rien faire et alors il faut attendre si maintenant le gouverneur de Daba, le vali à Dama peut faire quelque chose. Entre juin et octobre 69, c'est maintenant plus qu'une année, on est là, Sabak Tsavar arrive encore une fois au consulat et il dit maintenant qu'à l'instant, il a déjà négocié 120 Napoléons, ça serait parfait. Il peut faire la chose. Et puis le consul général, M. von Alten, il a tout de suite pris de sa propre poche cet argent parce qu'il a senti maintenant, c'est le moment. Et puis, il est parti, mais ça dure et ça dure, c'est mi-octobre 69, mais à ce moment-là, un contrat d'achat était fait. Magnifique. Alors, tout est réglé et les Beni Hamidé et le Cheikh est d'accord. Les Allemands peuvent acheter pour ces 120 Napoléons, la pierre. Mais les Bédouins de la région autour, ils ne voulaient pas laisser passer la pierre. Nouveau problème. Voilà. Et tout ça, c'est maintenant Tsavar qui contacte, de nouveau Tsavar qui contacte von Alten et aussi Klein, qu'il faut maintenant vraiment le vali de Dama qui pousse et qui fait qui dit un mot. On est en novembre. Et en novembre, Alten a essayé de rencontrer plusieurs des gouverneurs du gouvernement turc, mais rien n'était vraiment possible. Ils avaient déjà le contrat dans la poche, mais ils ne pouvaient pas emporter la pierre. Et puis, il y a encore une fois une négociation il y a un autre messager qui veut maintenant travailler et on a alors ce contrat. On a à Beyrouth, on dit ok, Tsavar Kavar, il revient pour vraiment attendre la réponse du vali à Dama. On est en octobre, le 20, 69, et à ce moment-là, le message, la pierre était détruite. Alors, c'était vraiment un peu dur. Ils avaient tout dans la poche, mais c'était impossible. Et à ce moment-là, la pierre était détruite. Encore un petit mot sur Warren. très court seulement, parce qu'il était dans le jeu. Il a un premier dans le Times, le 3 mars en 70, c'est après la destruction de la pierre. Il écrit, mais c'est une lettre qui date de janvier, il écrit encore toute la chose. In the summer 68, a gentleman, il ne dit pas le nom, il dit juste gentleman, et il raconte toute la chose, mais il dit particulièrement que lui, quand il a entendu que les Prussiens, les Allemands étaient là, en route avec les autorités, on ne va rien faire. Et c'est pourquoi il le raconte. Quand la pierre était détruite, on a au Palestine Exploration Fund, on a quelques estampages de des deux grands morceaux de cette pierre. On va entendre ça après pour Claire Mangano. Il y a l'estampage, il y a aussi un dessin, un tracing fait par Warren. C'était aussi dans le Illustrated London News en mai 70, c'était publié là, comment c'était arrangé. C'est intéressant, on a les deux formes de la stèle. Hein. Sur le point 1, on a la stèle comme ça, et l'autre, on a la stèle comme Klein l'a vu. Je ne comprends pas comment ils l'ont combiné. En tout cas, il y a un petit épilogue, j'arrive à la fin. Cheikh Zatam, il est entre-temps, il était le fils du Cheikh, hein. vous vous souvenez, c'est des Beni Sakhar. Il est maintenant entre-temps Cheikh. In his possession, he had a small idol made of brass, similar characters upon it. It was sold. Et là, on entend une autre histoire qui enchaîne, hein, qu'il y a maintenant des objets qui arrivent sur le marché. Vous vous souvenez peut-être du nom de Shapira. Je ne parle pas de ça aujourd'hui ici, mais les deux, par exemple, on les a à la BNU, à la Bibliothèque nationale et universitaire à Strasbourg, dans la collection Euting. On a là des objets. C'est une figurine, là, elle est assez grande, elle est comme ça. Et derrière, il y a ces symboles. Hein. Ce sont des lettres, mais alors, ce sont des faux, bien sûr. Hein. Et à ce moment-là, une autre histoire commence. On a découvert Moab, on a découvert cette culture qu'on ne connaissait pas avant, et on a découvert dans le sens biblique, parce qu'on avait déjà la stèle de Shihan en 1866, elle est déjà au Louvre, mais c'est maintenant la référence biblique avec Moab et avec Mesha. Je remercie particulièrement M. Manfred Weipert qui m'a donné son dossier qu'il avait déjà préparé. Il est malheureusement malade et ne pouvait pas venir. Alors, il m'a confié toutes ses recherches. J'en ai ajouté encore certaines. Et puis, Felicity Copping du Palestine Exploration Fund à Londres m'a aidé beaucoup. Et puis, Andrea Rin de la Mission 21 à Bâle. Puis, j'ai fouillé dans les archives du Times, Church Missionary Society Periodicals, les archives de la mission à Bâle et de British Newspaper Archives. Là, on a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est juste une petite partie que je présente ici. Et si jamais vous avez encore des informations, je serai très contente d'avoir vos détails et vos remarques. Merci beaucoup à vous. Merci.